franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp.
Bonjour. Une loi votée sans enthousiasme, le projet de loi Collomb sur l'asile et l'immigration aura suscité bien des états d'âme chez les députés La République En Marche. 14 se sont abstenus, 1 a voté contre. Emmanuel Macron ne veut pas de frondeur, on n'en est pas là, mais c'est un tournant dans le comportement majoritaire. 5e épisode de grève à la SNCF aujourd'hui et demain, le mouvement ne faiblit pas, ne grossit pas non plus. Les syndicats s'interrogent sur la suite, l'éventualité de jouer les prolongations cet été. Peut-être le dernier round à Notre-Dame-des-Landes. Là, ce sont les zadistes qui s'interrogent. Déposeront-ils des projets individuels avant minuit? Dans le cas contraire, les opérations d'expulsion reprendront demain. Dans ce journal également, Salah Abdeslam, condamné à 20 ans de prison par la justice belge. Le dernier survivant des attentats de Paris a été reconnu coupable de tentative d'assassinat sur des policiers après une fusillade en mars 2016 à Bruxelles. Renforcer les filières du recyclage pour les jouets, le bricolage ou le matériel de sport. Le Premier ministre propose une cinquantaine de mesures qui touchent aussi au problème des épaves de voitures. Invité de ce journal, Jacques Vernier, président de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La météo, des averses et des orages à l'est.
Oui, des orages ont déjà éclaté ce matin entre la Bourgogne et l'Alsace et l'après-midi va rester émaillé d'averses orageuses du nord-est aux Alpes du Nord et au sud du Massif central ainsi que le long des Pyrénées. Sur le centre-est, il faut même s'attendre à de la grêle. Ciel nuageux sur le sud-ouest, mais les averses sont rares et sur le reste du pays, les éclaircies sont belles et prédominantes et les températures fraîchissent, variant de 15 à 25 degrés en général avec jusqu'à 27 degrés à Grenoble.
A tout à l'heure pour le bulletin complet.
France Inter. Nous, on essaye d'apporter des solutions et avec aussi beaucoup d'humanité. On n'est pas des salauds, on n'est pas des idiots. On nous a accusés de laxisme d'un côté, d'être liberticide de l'autre. On n'est ni l'un ni l'autre. On a essayé d'être pragmatique au maximum.
On n'est pas des salauds, pas des idiots. Le cri du cœur d'Élise Fagel, députée de La République En Marche, rapporteur du projet de loi Asile-Immigration qui vient donc d'être voté en première lecture à l'Assemblée sans faire l'unanimité des macronistes, et c'est la première fois. Les élus de la majorité, dont beaucoup se sont fait porter pâle, 14 se sont abstenus, 1 a voté contre, ils ont des états d'âme. Alors qui sont-ils, où vont-ils et dans quel état errent-ils, Aurélien Colli?
Alors où sont-ils d'abord, Yves? Eh bien, ils sont partis se reposer après une semaine sous tension au sein du groupe En Marche. On commence par Jean-Michel Clément, l'ancien socialiste qui a été le seul à voter contre. Il a annoncé hier soir son retrait du groupe En Marche et quand je lui ai demandé quelle était la prochaine étape...
Les vacances d'abord et puis demain sera forcément un autre jour.
Jean-Michel Clément a mal vécu les pressions exercées par le président du groupe LREM, Richard Ferrand. Abstention, péché véniel, voter contre, péché mortel. Il n'a pas attendu l'humiliation d'une exclusion en déplorant un parti où il est impossible d'avoir une position divergente de la ligne édictée. Pour le défendre, pour défendre Jean-Michel Clément, la députée Sonia Crimi, qui fait partie, elle, des 14 abstentionnistes.
Je condamne toutes les pressions qu'il a subies. Et je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça. Parce que faire de la politique autrement, c'est aussi parler en on comme en off.
Pour Sonia Crimi, l'épisode va laisser des traces dans la majorité. Elle demande aussi que les sensibilités puissent s'exprimer plus facilement au sein d'En Marche. Idem pour la députée Haute-Garonne, Sandrine Morsch.
Je pense qu'on a désinhibé un peu la parole. Voilà, c'était très compliqué lundi. On sent que la parole s'exprime, qu'elle fait du bien à beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment très fort. Mais il va falloir tenir compte de notre diversité, qu'on ait plus de temps d'échanger. Et après, on arrivera de plus en plus unis. Mais il faut qu'on admette qu'il y ait de la diversité.
Un vote contre, 14 abstentions, Yves. Et puis il y avait aussi les absents, 99 députés En Marche qui n'ont pas pris part au vote. Officiellement, ils étaient dans leur circonscription, avaient d'autres impératifs, sauf qu'on peut voter par délégation. En réalité, ils ne veulent pas être frondeurs, mais ne s'y retrouvent pas dans une loi qui leur a été imposée et qui ne faisait pas partie des engagements de campagne d'Emmanuel Macron.
Alors sur ces sujets de l'asile et de l'immigration, les avis sont de toute façon toujours tranchés entre la droite qui juge cette nouvelle loi très insuffisante et les associations qui dénoncent une sorte d'autisme du gouvernement. Entre les deux, le gouvernement justement prétend maintenir l'équilibre, le ministre de l'Intérieur notamment. Après le coup de com' de Génération Identitaire qui est allé bloquer des migrants au sommet des Alpes et dont le Front National salue l'action efficace, Gérard Collomb a dénoncé une gesticulation tout en annonçant un renouvellement des contrôles aux frontières. Une trentaine de migrants venus d'Italie, escortés par des militants associatifs, ont été accueillis au refuge solidaire de Briançon. Pour la CIMAD et sa présidente Geneviève Jacques, ces débats de plusieurs semaines auront été décidément beaucoup de bruit pour rien.
On a surtout le sentiment d'un immense gâchis, d'une occasion manquée d'un débat qui aurait été un débat en profondeur, apaisé, sur les enjeux d'une véritable politique migratoire. Les discussions confuses qui ont eu lieu à l'Assemblée, où l'on a entendu des propos absolument honteux, où l'on oubliait simplement qu'il s'agit d'êtres humains, nous considérons pas qu'il s'agit là d'un véritable débat démocratique.
Propos honteux de la part de qui ?
De la droite et de l'extrême droite, mais aussi un certain nombre d'orientations en provenance du ministre de l'Intérieur, parlant d'invasion de certaines régions envahies, etc., qui entretenaient cette idée, ce diagnostic que la France serait face à une vague migratoire incontrôlable, ce qui est faux.
2 TGV sur 5, 3 TER sur 7. Le cinquième épisode de grève à la SNCF est aussi suivi que le précédent, notamment chez les conducteurs de train, en grève à 60% selon la direction de la SNCF, 80% selon les syndicats. Le conflit semble s'enliser. Le président de la République, interrogé sur Fox News à la veille de son voyage aux États-Unis, a été très clair. Hier, il n'y a aucune chance, no chance, qu'il cède aux grévistes. Il n'a pas d'autre choix que de poursuivre sur cette voie, car sinon, dit-il, comment pourra-t-il moderniser le pays et anticiper l'avenir ? De son côté, le président de la SNCF, Guillaume Pepy, se dit absolument sûr que la grève ne sera pas reconduite cet été, car il sait, dit-il, que les syndicats sont responsables. Mais peut-être s'est-il un peu trop avancé, lui a déjà répondu ce matin un responsable des cheminots CFDT. Alors que faut-il en penser, Maxime Debs ? Y aura-t-il des trains cet été ?
Alors pour être honnête, c'est un peu tôt pour le dire, mais les syndicats s'interrogent. Ils se retrouvent d'ailleurs demain soir pour discuter tous ensemble. Le sujet devrait être évoqué, et même si rien n'est tranché, Bruno Poncet de Sudrail conseille lui aussi à Guillaume Pepy de ne pas trop s'avancer.
Ah, monsieur Pepy, c'est déjà lui qui avait dit qu'il n'y aurait pas de grève du tout. Aujourd'hui, on voit bien le résultat, on est toujours à 30% de grévistes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que là, on a encore 2 mois pour se faire entendre. On va tout faire pour se faire entendre pendant les 2 mois, mais après, on peut rien écarter, parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, on peut pas admettre que ce gouvernement passe en force.
Cette option d'une grève pendant l'été, la CGT l'avait déjà évoquée, et voilà que la CFDT et l'UNSA réfléchissent à l'idée, tout doucement, timidement, pour l'instant, ça dépend. Des négociations sont à venir, elles pourraient durer l'été, sur les conditions de travail des futurs cheminots, au niveau de la branche, au niveau de la SNCF elle-même. Pour pouvoir s'avancer comme ça, garantir qu'il n'y aura pas de grève en juillet, c'est que Guillaume Pepy a peut-être de bonnes nouvelles à nous annoncer sur le sujet, mais franchement, on en doute, commente l'UNSA, qui sait aussi qu'une grève à l'été serait compliquée à faire accepter par les Français.
Et pendant ce temps, la grève à Air France se poursuit également pour sa 10e journée. Un avion sur 4 reste immobilisé. Ce devrait être le même tarif demain. Dans les facs, une intervention des forces de l'ordre à l'université Paul-Valéry de Montpellier ce matin. Université occupée depuis 2 mois, mais tout s'est passé dans le calme. Et pour cause, vacances scolaires obligent, les locaux étaient quasiment déserts. La police est également intervenue à Grenoble pour déloger une quarantaine d'étudiants qui bloquaient l'entrée d'un bâtiment. Grenoble, où la présidence de l'université envisage de consulter les étudiants et le personnel du campus par vote électronique dès demain sur ces blocages, justement. À Notre-Dame-des-Landes, peut-être le début de la fin des hostilités, c'est ce soir à minuit la dernière échéance pour les régularisations, pour que chaque zadiste porteur d'un projet dépose son formulaire, faute de quoi les opérations d'expulsion reprendront. Tout le week-end a été calme, après que les zadistes ont déposé de façon collective une quarantaine de dossiers, et ce matin, Philippe Randé, eh bien on était encore dans l'expectative.
Oui, ici à Notre-Dame-des-Landes, on sent que la journée est très importante. Conférence de presse des zadistes à 11h ce matin, déploiement de blindés de la gendarmerie sur la route départementale. Chaque camp espère marquer des points avant l'ultimatum de minuit. Les zadistes qui ont déposé, vous l'avez dit, une quarantaine de projets dès vendredi, mais qui continuent en ce moment à peaufiner leur dossier. C'est ce que nous explique Camille.
Nous, on attend de voir quelle va être la communication gouvernementale. Ce qu'on sait, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'on a jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui pour affiner ou présenter des nouveaux projets. Donc il y a un travail qui continue d'être mené sur ce plan-là, mais c'est plus à nous de faire un geste. C'est très clairement au gouvernement de faire un geste pour prolonger l'apaisement qu'il semble souhaiter et que nous, on souhaite. un geste fort de leur part, c'est prendre en considération ce qu'on porte depuis des mois, c'est-à-dire un projet collectif qui correspond à la réalité des différentes activités qu'on mène ici.
Reste plusieurs questions. Certains dossiers ne sont pas à vocation agricole, comme l'exige la préfecture, mais vous l'avez entendu, les zadistes insistent pour défendre leur projet collectivement. Et puis, l'autre préoccupation ici, c'est que ce dépôt de dossier n'ouvre pas pour l'instant des droits. Du coup, que va faire le gouvernement concernant notamment les 60 habitats précaires qui demeurent sur la ZAD? Après plusieurs jours sans présence militaire visible depuis 10h ce matin, les forces de l'ordre ont donc réinvesti la ZAD, pour l'instant sans affrontement. Mais on sent qu'après le rapprochement de ce week-end, en ce lundi, chacun s'observe et reste sur ses gardes.
Philippe Randet à Notre-Dame-des-Landes avec Hélène Langlois.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decaen.
Salah Abdeslam, coupable, le dernier survivant des commandos de Paris, toujours en attente de son procès pour les attaques de novembre 2015, est reconnu coupable par la justice belge de tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste. Il est condamné à 20 ans de prison. Abdeslam, en cavale, avait fait feu sur les policiers venus perquisitionner à Forest, commune de Bruxelles, le 15 mars 2016, trois jours avant son arrestation à Molenbeek, Pierre Benazet.
Les juges du tribunal correctionnel de Bruxelles ont suivi les réquisitions du parquet qui réclamait la peine maximale à l'encontre de Salah Abdeslam et de son complice Sofiane Ayari pour leur participation à cette fusillade du 15 mars 2016. Pour les juges, les deux hommes se sont effectivement rendus coupables de tentative d'assassinat de policiers à caractère terroriste. Pour les juges, rien n'indique que le troisième homme, Mohamed Belkaïd, neutralisé par les tirs des policiers, ait été ce jour-là le seul à tirer sur les forces de l'ordre. Les policiers de la cellule d'enquête conjointe franco-belge avaient été directement accueillis par un tir nourri d'armes automatiques alors qu'il venait perquisitionner un logement suspect, mais qu'il croyait vide. En condamnant Salah Abdeslam et Sofiane Ayari à 20 ans de prison, les juges ont estimé établi le caractère terroriste de leur acte, du fait du séjour de près d'un an de Sofiane Ayari en Syrie, dans les rangs de Daesh, ou encore, par exemple, des lettres dans lesquelles Salah Abdeslam enjoignait sa mère et sa sœur de haïr les mécréants qui, selon lui, persécutent les musulmans. Pour les juges, leur ancrage dans la radicalisation est aussi net que leur mépris pour la vie, et Salah Abdeslam n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Quatre jours après l'arrestation d'Abdeslam avaient eu lieu les attentats suicides de Bruxelles qui avaient fait 32 morts. Dans l'affaire Lafarge, le cimentier a-t-il financé le groupe État islamique en Syrie? Trois juges d'instruction poursuivent leur enquête. Une association de victimes du 13 novembre, Life for Paris, s'est constituée partie civile. Les dernières investigations révèlent qu'une lutte interne avait été engagée au sein de l'entreprise, où certains cadres voulaient maintenir l'activité syrienne coûte que coûte et même la redémarrer en 2015 à quelques semaines des attentats de Paris. L'affaire se complique, Sarah Guibaudot.
Août 2014, la direction juridique découvre atterrée que la filiale syrienne alimente le groupe État islamique. La responsable demande la fermeture de l'usine. Mais une semaine plus tard, un juriste constate que les opérationnels n'ont pas reçu le message. Une nouvelle réunion se tient le 19 septembre. Trop tard, le matin même, le groupe État islamique s'est emparé du site. La situation est dramatique pour les salariés sur place, raconte le juriste. Il y a des risques qu'ils se fassent couper la gorge. Les cadres opérationnels continuent de faire le forcing. L'un des intermédiaires qui traitait avec Daesh veut encore de l'argent. Il reçoit 300 000 dollars. À quoi aura servi cet argent? C'est la question que se pose Arthur Desnouveau, le président de Life for Paris, association de victimes du 13 novembre.
Les attentats du 13 novembre 2015 ont été financés en grande partie depuis la Syrie par l'État islamique. La concomitance des faits entre le financement par Lafarge d'une partie des activités de Daesh et les attaques nous font nous poser la question de savoir si l'argent est traçable.
En 2015, l'usine est libérée par les Kurdes. Son directeur français veut continuer le business, je cite, veto de la direction juridique. Il faudrait traiter avec Daesh qui contrôle les routes ou les matières premières. Mais le directeur français va encore rencontrer un intermédiaire en Turquie en décembre 2015. Il affirme avoir refusé un nouvel accord avec le groupe État islamique.
Dans l'affaire Tarnac, le parquet de Paris ne fera pas appel de la relaxe quasi-générale prononcée le 12 avril dernier par le tribunal correctionnel de Paris. Les principaux prévenus, Julien Coupa et Yildun Levy, étaient poursuivis pour le sabotage d'une ligne SNCF et pour association de malfaiteurs. L'audience avait permis de comprendre que ce groupe de Tarnac était une fiction, avait notamment déclaré la présidente. Il avait provoqué l'évacuation du Mont-Saint-Michel hier matin. Un homme de 36 ans qui menaçait de s'en prendre à des policiers policiers ou à des gendarmes, a finalement été interpellé dans la soirée à Caen et placé en garde à vue. Après ces menaces publiques, le monument le plus visité de province avait été fermé, le temps de fouiller les maisons une par une. Le suspect, connu pour des affaires de petite délinquance, n'a montré aucun signe de radicalisation. À l'étranger, Macron chez Washington, dès ce soir, au début de sa visite d'État de 3 jours aux États-Unis, le président de la République et son épouse seront reçus pour un dîner privé par le couple Trump à Mount Vernon, la résidence du premier président américain, héros de l'indépendance, George Washington. Une attention toute particulière sera donc réservée au petit Frenchie, qui lui-même avait sorti le grand jeu en accueillant Donald Trump à Paris le 14 juillet. Pas question donc pour les Américains de faire moins bien. C'est un premier signe de la considération que les deux hommes se portent, même s'ils s'opposent sur d'importants sujets, comme on va le voir dans les jours qui viennent, le réchauffement climatique, les taxes douanières ou le nucléaire iranien. De ce point de vue en tout cas, accords et désaccords pourront être pointés également par un simple constat, la composition de la délégation française. Cyril Graziani, le choix des personnes accompagnant le président, c'est aussi un signal envoyé à ses hôtes.
Et Emmanuel Macron s'y implique pleinement. Il fait très attention à cette délégation, car à ses yeux, c'est un outil de diplomatie, un espace de liberté utile pour adresser des messages, dire sans froisser grâce à une liste de personnalités choisies unilatéralement par la France et qui peuvent relayer sa parole. Lors de son voyage en Chine, par exemple, le chef de l'État savait qu'en matière de liberté d'expression, il ne fallait pas heurter son hôte, mais il avait invité le dessinateur Jules dans un pays où Twitter est interdit. Ce dernier ne s'était pas privé de poster des caricatures sur le réseau social depuis le palais du peuple de Pékin, en pleine réception officielle. Aux États-Unis, des clins d'œil commerciaux et climatiques seront ainsi portés par des invités triés sur le volet. Niveau entreprise, Emmanuel Macron a convié par exemple celui d'Andros, une entreprise populaire française, pour montrer que pour lui, il n'y a pas que des entreprises de luxe. Et pour les messages environnementaux, là il sera accompagné par 2 chercheurs actuellement en poste aux États-Unis, lauréat de la bourse Make Our Planet Great Again, ainsi que de l'astronaute Thomas Pesquet, qui après avoir passé 6 mois dans l'espace n'a cessé de répéter qu'il avait vu les conséquences du réchauffement climatique. Il voulait s'engager pour le climat. Le voilà officieusement ambassadeur de la France. Sortir de l'accord de Paris est irresponsable, disait-il à son retour sur Terre. Quand il sera présenté à Donald Trump, peut-être pourra-t-il lui glisser.
Cyril Graziani à Washington avec Marc Garvonet. Ce soir donc dîner privé. Demain, les premiers échanges officiels et le dîner d'État à la Maison Blanche. En France, retour en France, je recycle, tu recycles, nous recyclerons. Sur ce point, nous avons beaucoup de progrès à faire, nous Français. Un tiers de nos poubelles n'étant toujours pas recyclées, soit en moyenne 200 kilos de déchets par personne et par an. Une poupée, un marteau, une raquette de tennis, par exemple, seront jetés sans suite. Ce que le gouvernement voudrait changer en créant de nouvelles filières de recyclage pour les jouets, le matériel de sport et le bricolage, et même pour les mégots de cigarettes. Le Premier ministre Édouard Philippe visitait ce matin une usine Seb en Mayenne. Stéphanie Denvaux.
Fabriquer, consommer, jeter, c'est du passé. Aujourd'hui, il faut consommer différemment. C'est le message qu'a voulu faire passer lors de cette visite le Premier ministre Édouard Philippe.
Il nous faut un jouet neuf tous les jours et nous sommes constamment tenus en haleine par les inventeurs qui nous créent des besoins ridicules. Cette phrase n'est pas de Nicolas Hulot, elle n'est pas de Brune Poirson, elle n'est pas l'œuvre ou la formule d'un militant associatif virulent. Elle est d'un écrivain français connu et reconnu pour son élégance, Paul Morand.
Allonger la durée de vie des produits, mais aussi trier plus et mieux les déchets en créant de nouvelles filières de recyclage.
Les emballages des cafés, hôtels, restaurants, les jouets, les articles de sport, de loisirs et de bricolage. Nous souhaitons également mobiliser les producteurs de cigarettes pour gérer les mégots, qui sont dans leur grande majorité jetés au sol, afin qu'ils incitent les fumeurs à changer leurs habitudes et qu'ils contribuent à financer le ramassage, qui est aujourd'hui entièrement à la charge des collectivités locales.
50 mesures dans cette feuille de route. Reste maintenant à les appliquer et ça, c'est un peu plus flou. À l'usine Seb Moulinex de Mayenne, Stéphanie Deneveau, France Bleu Mayenne pour France Inter.
Voilà, parmi les mesures annoncées de ce qu'on appelle l'économie circulaire, également le problème des épaves de voitures, l'obligation de fournir un certificat de destruction du véhicule pour pouvoir résilier son assurance automobile, un certificat que seuls pourront fournir des centres agréés. Invité de ce journal, Jacques Vernier, président de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, auteur du rapport dont s'est inspiré le gouvernement. Bonjour.
Bonjour.
J'imagine donc que le gouvernement, pour vous, est sur le bon chemin, hein, puisqu'il il a repris, je crois, 3/4 de vos propositions.
Il a repris effectivement 3/4 de mes propositions, notamment en créant de nouvelles filières pour lesquelles les producteurs des produits sont responsables des déchets une fois que ces produits deviennent déchets. Vous l'avez dit tout à l'heure, les jouets, les articles de sport et de loisirs. Il y avait déjà 14 familles de produits, les textiles, les emballages, les déchets électriques, électroniques, les meubles, où les producteurs étaient responsables de leurs futurs déchets. Il va s'y ajouter 3 ou 4 familles de produits, notamment les jouets, les articles de sport et de loisirs, etc.
Et comment expliquer ce retard sur, dans ce domaine-là ? Ce sont les producteurs qui bloquaient ?
Bon, écoutez, on n'est pas vraiment en retard parce que à l'échelle européenne, il y a 4 filières obligatoires, par exemple pour les piles, les véhicules hors d'usage, etc. Alors que nous, pendant les 25 dernières années, nous avons créé 14 familles de produits pour lesquels la responsabilité des producteurs est obligatoire. Donc, on n'est pas en retard, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à avancer, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même le tiers de nos déchets pour lesquels les producteurs n'étaient toujours pas responsables.
Mais comment fait-on pour créer une filière ? Parce qu'il faut pouvoir revendre après ce qu'on veut recycler.
Une filière, ça veut dire que au lieu que ce soit les communes, les villes qui soient responsables des déchets et qui payent pour le traitement de ces déchets, en fait, ce sont les producteurs qui vont payer pour le traitement des déchets de leurs produits. Et en même temps, on demande aux producteurs non seulement de payer, si vous voulez, mais de réfléchir à la conception de leurs produits pour, par exemple, alléger les emballages. En tout cas, faire en sorte qu'une fois qu'ils deviendront déchets, les produits soient plus faciles à traiter et plus faciles à recycler.
Les producteurs vont payer et donc répercuter le coût sur les consommateurs.
Oui, en tout ou partie, parce que certes, il y aura peut-être une légère répercussion sur les consommateurs, mais pas forcément.
Alors à propos des consommateurs, peut-être serait-il bon aussi d'imposer un étiquetage plus lisible, en tout cas de faire le tri dans les logos.
Ah bah écoutez, oui. Alors il y a quelques années, on avait dit que le nouveau logo qui montre que le produit est recyclable, on appelait ça le triman, l'homme qui trie. Bon, on avait prévu qu'il pourrait être imposé soit matériellement sur le produit et l'emballage, soit que l'information par Internet sur le recyclage serait accessible. La nouvelle mesure décidée ce matin par le gouvernement, c'est qu'il faudra qu'il soit imposé matériellement sur le produit ou sur son emballage pour que les gens le voient effectivement au moment de l'achat.
Pour les épaves de voitures, c'est une bonne chose d'imposer un certificat de destruction pour résilier son assurance.
C'est capital. Vous vous rendez compte, vous l'avez dit, plus de 500 000 véhicules sont traités ou exportés illégalement chaque année en France. C'est un véritable scandale. Et parmi les mesures que j'ai proposées, il y a effectivement le fait que quand on résilie son assurance, si on dit à l'assurance « Ah ben je me suis débarrassé de ma voiture », « Ah bon, vous vous êtes débarrassé de votre voiture ?» Eh ben il faut à ce moment-là prouver que vous vous en êtes débarrassé dans un centre de destruction agréé.
Mais ça aussi, Jacques Vernier, c'était pourtant pas compliqué à mettre en place.
Et c'était pas tellement compliqué, mais voilà. Et de la même manière, si vous passez pas votre véhicule au contrôle technique et que vous dites « Ah, mais je vais pas passer parce que mon véhicule est hors d'usage. Ah bon ? Il est hors d'usage ?» Ben là aussi, si vous n'êtes pas passé au contrôle technique, il faudra prouver que votre véhicule a été remis à un centre de destruction agréé, à un centre agréé, et pas à un maroulin.
Voilà, pour sortir du fabriqué, consommé, jeté, une cinquantaine de mesures donc annoncées ce matin par le Premier ministre. Merci Jacques Vernier, président de la Commission des filières de responsabilité élargie des producteurs. La mortalité sur les routes en baisse forte pour ce mois de mars 2018, moins 13,5%, 231 personnes sont mortes en métropole, 36 de moins qu'en mars 2017. Sur le premier trimestre 2018, on a une baisse de plus de 6% par rapport à 2017. Il avait la route du Rhum pour objectif. Il a chaviré avec son bateau volant de dernière génération il y a 10 jours au large du Maroc, alors que son bateau attend toujours à Casablanca maintenant pour être rapatrié jusqu'à Lorient. Armel Lecléache est revenu aujourd'hui sur cette nuit où tout a basculé alors qu'il convoyait son trimaran vers Nice. Accident forcément marquant à bord de ces bateaux qui peuvent atteindre 90 km/h. Nord, même si les conditions étaient plutôt favorables cette nuit-là. Armelle Lecléache au téléphone de Fabrice Rigobert.
On naviguait entre 20 et 25 nœuds de vitesse sur un bord assez proche du vent, ce qu'on appelle le prêt. Le bateau n'était pas en train de voler. Et là, je pensais pas avoir un vent qui allait se renforcer comme ça en quelques secondes. De nuit, j'ai pas vu les choses arriver et tout était allé très vite. On a bien sûr quelques montées d'adrénaline au moment où le bateau commence à basculer parce qu'on se rend compte qu'on est en train de chavirer, ce qui est, sur ces bateaux-là est assez rare et difficile à accepter. Voilà, pendant quelques secondes, on se retrouve à la tête à l'envers, avec l'eau qui monte un petit peu dans la zone où j'étais. Mais très vite, on retrouve ses esprits, on retrouve les accès justement pour se mettre en sécurité. On avait une trappe prévue en conséquence là où j'étais à ce moment-là, donc pour pouvoir accéder à la coque centrale, à l'intérieur de la coque centrale où j'ai rejoint mes deux équipiers qui eux étaient à l'intérieur au moment du chavirage. Et là, le bon sens reprend le dessus avec notamment savoir si personne n'est blessé et puis déclencher les secours, savoir où se situe le bateau dans une zone où il y avait un petit peu de trafic, quand même des cargos, des bateaux de pêche, pour éviter d'avoir un suraccident.
Voilà, Armelle Lecléache aux côtés de Fabrice Rigobert et non pas au téléphone. Lecléache qui a dû être élitreillé avec ses équipiers, maintenant il se tourne déjà vers ses prochains objectifs. Il n'y a pas de défaut de conception sur son bateau qui a été préparé pour faire le tour du monde en solitaire en 2019 après la route du Rhum. Allez, avec le retour du grand beau temps, ces derniers jours sont venus aussi les allergies, c'est chaque année pareil. Petit pique-nique dans l'herbe, petite sieste le dimanche et petite visite chez le médecin le lundi, les yeux qui grattent, le nez qui coule ou bien l'inverse. Le nombre de Français souffrant d'allergie au pollen est en forte augmentation, jusqu'à 30% pour les adultes, 20% chez les enfants. Alors profiter de la nature, oui bien sûr, mais en prenant un minimum de précautions, c'est ce que demande aux allergiques le docteur Pierrick Ordet, au micro de Sandrine Houdin.
Je suis allergique au printemps. Je suis allergologue et je suis allergique au printemps parce qu'on n'en peut plus. Tous les patients appellent, ils veulent une ordonnance entre deux, veulent passer entre deux, ça n'arrête pas.
Il vous arrive dans quel état ?
Certains arrivent très épuisés, pouvant plus aller bosser parce qu'ils sont très très gênés. Certains sont surinfectés, certains font de l'asthme, hein, parce que l'allergie ça entraîne de l'asthme. Cette semaine, ça risque d'être la catastrophe.
Comment vous l'expliquez ça ?
Ça s'explique parce qu'en France, on n'a pas la culture de la prévention. Voilà. En fait, les allergiques, quand ils sont bien suivis, il faut qu'ils viennent avant. Et je me bats tous les jours depuis des années pour faire comprendre ça. Il faut un peu se prendre en charge. Certains vont pique-niquer en plein pic alors qu'ils le savent, d'autres qui vont tondre, d'autres qui vont aller courir en plein pic de pollen. C'est pareil, c'est ahurissant. On répète chaque année les bons gestes qu'il faut faire quand il y a un pic de pollen. Ils doivent le savoir. Quand on va se balader qu'il y a un pic de pollen, il faut se rincer les cheveux le soir absolument. C'est pareil, il faut aérer plutôt tôt le matin qu'en pleine journée où il y a plein de pollen.
Ils n'y pensent pas alors qu'ils sont allergiques.
C'est oublié.
Purificateur d'air, vous conseillez, docteur ? Ah, grand blanc. Vous êtes allergique au purificateur ?
Non, mais il ne faut pas acheter n'importe quoi sans conseil d'un allergologue.
Je présume que printemps sur printemps, vous avez vu défiler de tout.
Oui, de printemps en printemps, on voit des choses aussi curieuses, de plus en plus. Par exemple, il y a des éléments communs entre les protéines de pollen et certains aliments comme des fruits ou des légumes. Par exemple, quelqu'un qui vient de manger une pomme, s'il embrasse sa compagne ou son compagnon qui est allergique au pollen, eh ben, il va faire une réaction allergique. Vous n'allez pas le croire, mais je suis en train de le devenir. Je commence à me racler la gorge, à éternuer.
Voilà, allergie réelle ou psychologique. Propos à retrouver sur franceinter.fr. Bientôt une très heureuse nouvelle venue d'Angleterre. Kate, la duchesse de Cambridge, épouse du prince William, a été admise ce matin dans une maternité de Londres pour la naissance, bien sûr, du troisième enfant du couple. C'est dans cet établissement que George, 4 ans, et Charlotte, 2 ans, étaient nés. Le futur bébé royal sera le 6e arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II, qui a fêté ses 92 ans samedi. La météo.
La météo avec SwitchAssure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagner. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Averses et orages à l'est, Sébastien Léas.
Des averses accompagnées de coups de tonnerre circulent des Cévennes aux Alpes du Nord jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté et aux frontières allemandes. En Auvergne-Rhône-Alpes, ces orages peuvent même apporter de la grêle par endroits. Après-midi instable également près des Pyrénées avec des averses localement orageuses, risquant même de déborder vers le Roussillon. Le temps est nettement moins agité sur le reste du pays. De la Bretagne au Poitou-Charentes jusqu'aux Hauts-de-France et à la Champagne-Ardenne, on profite d'éclaircies de plus en plus belles. Le soleil est encore plus radieux en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur les plages du Languedoc. Le ciel bleu est par moments atténué par des bancs de nuages élevés. Côté température, les maximales dégringolent, perdant 5 à 8 degrés par rapport à hier. À peine 14 degrés à Dunkerque et 16 degrés au Havre et à Brest. Il fait 17 degrés à Lille à La Rochelle, 21 degrés pour Paris, Tours, Limoges et Colmar, 23 degrés à Montpellier, Toulouse, Bastia et à Lyon. Et on attend quand même 27 degrés à Grenoble et à Avignon.